Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Une femme d'aujourd'hui, à travers ses épreuves de vie, à travers finalement, oui, ces épreuves de vie qui vont la façonner et qui vont faire d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui. On y va pour les détails.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Yasmina Alaoui, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Yasmina?
Ça va très bien et merci à toi de me recevoir.
Un plaisir, vraiment un plaisir d'avoir cet échange féminin avec toi et authentique, je n'en doute pas. Alors,
ouais,
dis-moi Yasmina, qu'est-ce qui t'a amené vers le leadership ou vers la culture du leadership chez les autres? Quand je dis culture, en référence à cultiver en fait.
À cultiver, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui... J'ai été baignée dans ça, on va dire, et que ça a été un peu instinctif. Et ensuite, avec les expériences, avec les différentes missions que j'ai pu avoir, mon leadership un peu particulier s'est construit petit à petit. Et voilà. Mais,
alors, est-ce que tu peux être un peu plus concrète, justement?
Oui, alors un peu plus concrète. Moi, je viens d'une famille de commerçants. Je suis née en France. J'ai grandi en France, j'ai été baignée dans la restauration et l'hôtellerie. Et donc, très jeune, j'ai compris un peu les rouages du métier, de la gestion, etc. Et puis ensuite, de par mes études, école de commerce, etc., on a appris un peu la théorie. Et puis, au fil de mes expériences et une arrivée au Maroc il y a bientôt 14 ans, le leadership a pris vraiment son sens par l'expérience, okay. Par le terrain, par l'opérationnel.
Ok, alors on va parler justement de cette arrivée et du lancement de ton business aussi. Arrivée dans ton pays natal, dans ton pays d'origine de tes parents, parce que finalement ton pays natal au sens littéral du terme, c'est la France. Tu es née en France, mais le Absolument. Pays de tes parents, c'est le Maroc et ton pays de cœur aussi. Donc, arrivé ici, après plusieurs années en fait, où tu as grandi, tu as vécu, tu as étudié dans un autre pays, c'était comment ce retour? Comment s'est fait le retour et pourquoi, si je peux me permettre?
Bien sûr. Alors, pourquoi par une petite amourette, on va dire, à l'époque des études. Et donc, j'ai suivi un peu le retour de la personne à l'époque avec qui j'étais. Et pour moi, le Maroc, c'était uniquement pendant les vacances. Mais je me sentais un peu plus que uniquement marocaine par les vacances. J'avais envie d'apporter ce petit plus, d'apporter quelque chose, de contribuer en fait à une touche que je pouvais apporter dans la vie marocaine. J'avais envie de cette contribution, je suis quelqu'un d'un peu perfectionniste, avec le temps on gomme un petit peu, mais j'avais envie d'apporter quelques petits changements dans les expertises que j'avais et voilà, ça donnait beaucoup de sens à ma mission de le faire dans ce pays et que j'aime beaucoup et je suis très heureuse aujourd'hui de vivre au Maroc, d'avoir eu mes enfants et que mes enfants vivent au Maroc et de faire carrière aujourd'hui au Maroc et je me sens marocaine vraiment. Et je suis heureuse chaque jour de voir tout ce que chacun d'entre nous peut apporter à ce magnifique pays.
Alors, ce qui a commencé comme suivre son cœur, finalement, une amourette, je pense que comment tu l'as exprimé, ça veut dire que ça s'est terminé, si j'ai bien compris.
Oui, oui, oui. Très rapidement.
Très rapidement.
Ça a été aussi... Alors, ça s'est terminé, puis ça a été la naissance un peu de mon moi en tant que femme. Parce que quand je suis rentrée, alors quand on rentre, c'est vrai que mes parents qui étaient très français, très européanisés, ben finalement de retour au Maroc, ils étaient beaucoup plus traditionnels et donc il n'était pas possible pour moi de rester vivre à Rabat en étant en couple avec une personne. Et donc le mariage s'est vite imposé. Et le lendemain du mariage, j'ai tout de suite su que c'était une erreur, mais pour pouvoir faire accepter l'idée d'un divorce, il a fallu beaucoup de travail sur
Ouais.
moi-même. Et c'est là que j'ai rencontré le monde du coaching et du développement personnel et que j'ai pu devenir moi, pas la fille d'eux ou la femme d'eux, mais pouvoir prendre ma première vraie décision en mon âme et conscience et de l'assumer, de le faire accepter par les autres ou pas, mais en tout cas de l'assumer.
Tu avais besoin de l'assumer toi-même?
Oui, j'avais besoin, mais avec du recul maintenant, je pense que c'était un besoin que ce soit fait dans la douceur, même si ça a été fait par moments dans la douleur. Mais le fait que tout le monde puisse l'accepter, ça me permettait de me libérer de ce poids peut-être de culpabilité, de se dire j'ai fait assumer ça à tout le monde.
Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est une jeune femme en fait qui est née, qui a grandi en France, qui dit ça, hein.
Absolument. Absolument.
Ouais. Et est-ce que à travers le travail que tu as pu faire, est-ce que tu as compris pourquoi?
Oui, j'ai compris que pour moi, je devais être, je devais faire, j'étais la fille d'eux, et prendre mes propres décisions n'était pas. Je ne savais même pas que j'avais le droit de décider par moi-même. Et ça, c'était mes propres limites, mes propres pensées. Mais j'étais bloquée, j'étais complètement bloquée. Et pourtant, j'ai été très indépendante très vite. À 18 ans, je suis allée faire mes études. J'ai été indépendante financièrement très rapidement. J'ai voyagé, tout ça. Mais j'avais ce blocage de me dire, qu'est-ce que je fais? Cette culture, cette obligation, cette image à maintenir, à garder, à
Ouais.
respecter.
Ouais. Et comment on vit avec soi-même pendant une période où, comme tu l'as très bien dit, le lendemain du mariage, tu savais que c'était voué à l'échec. Et puis, au départ, cette incapacité à prendre la décision et à se dire, je dois gérer beaucoup de paramètres, pour pouvoir me séparer de cette personne. Comment on cohabite avec soi-même, en fait, entre cette personne qui a envie de partir et cette personne qui est obligée de rester.
Je pense qu'au début, c'était un peu de l'automatisme, de rester un peu par le temps de faire ses choix, parce que c'est des vagues. C'est des vagues, c'est pas étape par étape, je décide, c'est OK, etc. C'est je décide, je doute, je reviens, je repars, etc. Finalement, comment on vit avec soi? Mais on se rencontre petit à petit. Chaque petite étape, pour moi, a été une nouvelle découverte d'une partie de moi-même et qui, aujourd'hui, me sert encore. À chaque fois que je me rencontre sur un volet de moi-même, c'est ces nouvelles parts que je rencontre à chaque fois
Ouais.
et que je m'autorise.
Tout à l'heure, tu as dit, j'ai grandi dans une famille de commerçants. Donc, ce qui t'a peut-être insufflé cet esprit d'entrepreneuriat, mais ce qui t'a amené finalement dans ta discussion peut-être vers tout ce qui est leadership. Et quand on parle de leadership, c'est avant tout le leadership de soi. Ça veut dire avoir les manettes de sa vie, pas le contrôle, parce que on ne peut pas avoir le contrôle total, mais les manettes, on va dire, le volant plus ou moins de sa vie. C'est cette expérience, en fait. Et comment tu t'en es sorti à travers le travail que tu as fait?
C'est exactement ça. Chaque expérience m'a permis de m'autoriser à être moi-même. m'a permis de me dire que je suis la bonne personne au bon endroit, que j'ai la capacité, que chaque réussite ou aussi chaque expérience m'a permis de faire ou d'être là où j'étais. Et donc, c'est de ne plus faire les choses sans conscience. Mmh. Et la conscience de moi-même, c'est ce qui chaque jour me permet de continuer. Et que ce soit positif ou négatif, mais reprendre conscience à chaque fois des possibilités et des compétences et des ressources que l'on peut avoir, c'est ce qui permet, en tout cas moi, c'est ce qui me permet de chaque matin de me dire « Ok, je peux le faire encore ».
Oui, oui. J'ai envie aussi qu'on parle de... Finalement, tu es arrivé au Maroc, donc on peut presque dire que ta rencontre avec le pays de tes parents, ton pays de cœur, même si tu venais avant pendant les vacances, etc., mais ouais. la vraie longue période de vie au Maroc, ben, elle a pas commencé de façon joyeuse, heureuse.
Elle a commencé de façon intense, et un peu douloureuse, c'est vrai. Mais en même temps, j'avais cette mission de me dire, je suis là, c'est le début. M'adapter, ça m'a pris aussi du temps parce que j'avais mes codes. En plus, je venais de France, oui, mais d'Annecy, qui est à côté de la Suisse, donc avec une culture quand même très rigoureuse, très carrée. Et là, j'ai débarqué à Casablanca avant d'atterrir à Rabat, mais c'était tout un changement. Et voilà, ouais. Et donc je me suis adaptée, j'ai découvert, j'ai avancé, et ça m'a plu. Parce que ce qui m'a plu aussi, ça a été les rencontres, parce que dans chaque étape de ma vie, j'ai fait de très belles rencontres, des personnes qui ont pu accompagner tout mon parcours, qui m'ont appris, et ensuite des personnes à qui j'ai pu apprendre et transmettre.
Oui. Et voilà. Ma question, c'était l'introduction d'une question. Ça veut dire que tu aurais pu décider de repartir, en fait, dans ta zone de confort, là où tu étais bien. Et pourtant, tu as pris la décision de rester, non seulement de rester, mais aussi d'entreprendre professionnellement.
Alors, entreprendre, oui et non. Parce qu'aujourd'hui, je travaille pour une très belle entreprise. Mais avec cette liberté de diriger avec ce mindset d'entrepreneur et voilà. Mm. Donc c'est vrai que j'ai décidé de rester. La question de partir, pas de retourner en France, mais d'aller ailleurs, s'était posée. Et puis encore une fois, le destin a fait que une rencontre m'a fait rester. Et puis voilà.
Alors, justement, aujourd'hui, tu as lancé ton cabinet ?
Non, aujourd'hui, je n'ai pas lancé mon cabinet. Aujourd'hui, je suis dirigeante dans une entreprise, dans l'agroalimentaire. Et en parallèle de ça, je continue de me former et d'accompagner des équipes, des dirigeants et des personnes.
Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton cabinet, justement ? Puisque tu fais de l'accompagnement.
Alors, rien ne m'en empêche. Il faut sauter le pas.
Oui.
Il faut sauter le pas.
Et ça, c'est quelque chose qui, pour toi, en fait, c'est pas ou noir ou blanc, bien sûr. On peut vivre parfaitement dans une zone grise, avoir les deux. Mmh. Est-ce que toi, tu penses un jour sauter le pas ou tu as trouvé, en fait, ton équilibre dans cette dynamique ?
Je pense qu'à terme, je le ferai. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. J'aime beaucoup l'entreprise dans laquelle j'évolue. J'aime beaucoup les opportunités de formation que cette entreprise m'apporte et l'environnement de cette entreprise.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, je suis très à l'aise dans la vie que je mène professionnellement. À côté de ça, j'y viendrai. Mmh. clairement, mais je pense que ce n'est pas encore le bon moment.
C'est pour une belle retraite, en fait, une retraite active.
Ah, moi, j'adorerais avoir une retraite à 45 ans.
Oui.
Une belle retraite à 45, commencer ma retraite à 45 ans et de faire, et de là, de transmettre, d'accompagner, oui, oui, oui.
Oui.
Mais là, en tant que femme, au Maroc, j'ai un besoin quand même d'indépendance et de sécurité, et j'ai des enfants qui sont encore en bas âge, et donc, pour moi, le choix reste encore à affiner.
Oui. Alors, on va parler de leadership, parce que justement, oui. Toi, tu accompagnes. Et puis, tu travailles aussi en entreprise.
Oui.
Est-ce que tu es arrivé à cette définition, à ta définition de ce qu'est le leadership ?
Alors, ma définition, pour moi, c'est d'être en présence avec les personnes. C'est de ne pas être déconnecté du monde dans lequel on travaille. Parce que, in fine, quand on a l'humain, le capital humain au cœur de nos métiers, théoriquement, le leadership peut avoir une belle définition, mais dans la réalité, ce qui permet d'être vraiment ancré et d'être dans la réalité pour que les personnes puissent vraiment sentir que c'est incarné, pour moi, c'est la présence. C'est vraiment la présence avec les équipes, présence avec l'environnement.
Alors, quelle est la différence entre la présence et le micromanagement ?
Alors, le micromanagement, c'est vraiment du suivi de tâches, de petites tâches et d'être derrière les équipes.
Ouais.
Là, c'est d'être un support, d'être un business partner pour son équipe, d'être un peu le miroir de ce que la personne ne va pas voir au premier regard et qui peut faire la différence.
Oui. Pourquoi je te pose la question ? Parce que pour certains, en fait, le fait d'être avec leurs équipes au quotidien dans les micro-tâches, c'est ça, être présent aussi.
C'est ça, c'est une grande différence.
C'est une grande différence, ouais. Alors, dans ce parcours aussi, où finalement ta vie personnelle s'est retrouvée intimement impactant ta vie professionnelle, tu as appris quoi sur toi-même ? Sur la femme que tu es devenue ?
Que tomber et se relever, ce n'est pas être plus forte, mais en tout cas, c'est être plus résiliente. Parce que les épreuves de la vie ont accompagné un peu chaque chemin et chaque virage de ma carrière. Et à chaque fois, une douleur ou quelque chose où je me disais sur une épreuve, impossible de me relever, impossible de continuer, eh bien, ça me faisait repartir et se relever avec résilience, envie, retrouver l'espoir à chaque fois. C'est ça.
Oui.
C'est ma vie personnelle m'a permis d'être résiliente dans ce que je fais.
En fait, c'est cette amourette qui a donné ce cours à ta vie ?
Oui, il y a eu ça. Il y a eu aussi le deuil d'un premier enfant. J'ai perdu mon premier enfant une semaine après la naissance. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a ancrée au Maroc parce que je ne pouvais plus repartir après avoir enterré mon fils ici. Et puis m'être relevée de cette épreuve. Je pense qu'après ça, même s'il y a eu d'autres épreuves par la suite, mais après ça, tout me semblait atteignable.
Oui.
Donc ma pire épreuve a été ma plus grande force.
Oui, oui. Et la maternité après, justement, après la perte d'un premier enfant ?
Alors, par la suite, la maternité après la perte d'un enfant, elle est différente. Elle fait peur.
Oui.
Il y a la peur
Oui.
qui nous quitte pas, il y a le contrôle qui revient, il y a tellement de choses qui ne sont pas normales pour une maternité, mais elle est différente, mais on s'y fait.
Ouais.
On s'y fait et petit à petit, j'étais une maman plus que poule, une maman qui n'a pas beaucoup dormi la première année,
Ouais.
une maman tellement aimante mais qui avait tellement peur. Et puis en plus, c'est tombé avec le Covid. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois aussi les effets sur mon fils. J'ai un fils adorable. Intelligent, sensible, drôle. Voilà, je vois l'amour dans ses yeux et je me dis, ok, ça valait le coup.
Oui.
Ça valait le coup, toutes ces nuits, cette peur, tout ça. Et
Oui.
puis après, quand la troisième grossesse a été plus légère, voilà, le bonheur,
Oui.
revient.
Reviens. Yasmina Alaoui, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Et comme je l'ai annoncé
Merci.
tout à l'heure, j'étais sûre que ça allait être une discussion extrêmement authentique
Oui,
et
effectivement.
entière.
Merci
Merci.
beaucoup, Yasmine.
Merci
Merci
à
pour
toi,
cet échange.
Yasmina. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.